Interview.
100% interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM sur internet www.rdwa.fr et nous allons parler Biovallée avec Augustin Gendouze, bonjour.
Bonjour.
Et Karine Melzer,
bonjour. Bonjour.
Karine, administratrice au sein de cette association. Augustin, directeur, c'est ça ?
Oui.
Oui. Alors bien, on rentre direct dans le sujet. L'association Biovallée, certains la connaissent, d'autres pas encore. Ça fait quelques temps qu'elle existe et c'était parti autour de ce grand projet de la région Rhône-Alpes pendant 5 belles années. On en a quand même bien entendu parler, je pense, sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui pour la présenter, cette association ?
Ben, c'est une association qui a vocation finalement à réunir toutes les dynamiques, toutes les expériences, toutes les actions qui amènent ce territoire à se tourner vers un développement durable, qui prennent soin à la fois de l'environnement, et notre environnement il est assez particulièrement magnifique pour qu'on on le préserve et qu'on y fasse attention, et qui prennent soin aussi de la qualité de vie des habitants sur ce territoire.
Le lien qu'il y avait avec le grand projet Rhône-Alpes et aujourd'hui sa forme associative, hein, parce que au départ c'était un projet porté par plusieurs collectivités.
Oui.
Augustin.
Oui, oui. Eh bien, en fait, quand il y avait ce grand projet Rhône-Alpes, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place, hein, où les élus travaillaient avec des chefs d'entreprise, avec des citoyens, des associations, pour pouvoir permettre à certains projets de naître et d'être financés. Et puis à un moment, en 2012, ils se sont dit « mais il ne faut pas que la dynamique retombe » et ils ont décidé de créer une association dans laquelle il y avait trois collèges. Il y avait un collège des collectivités, un collège des acteurs économiques et un collège associatif. Depuis 2017, fin 2017, nous avons créé un quatrième collège. C'est que nous avons redonné la place aux citoyens et nous avons créé un collège citoyen, qui permet ainsi à ces quatre sphères qui souvent ne travaillent pas ensemble, voire même s'ignorent, ça permet à ces quatre sphères d'avoir un lieu où se retrouver et de discuter et travailler sur le développement durable.
Qu'est-ce que ça impulse alors Biovallée, si on devait lancer comme ça peut-être les 4-5 grands objectifs ?
Le premier objectif, c'est vraiment de réunir au maximum toutes les dynamiques du territoire pour qu'il y ait davantage d'interconnaissances, d'échanges et puis de projets communs aussi sur le territoire. Donc ça se fait à la fois en amenant de plus en plus de monde à adhérer à l'association et donc à être informé de ce qui se passe et connaître les autres acteurs adhérents. Ça se passe aussi par des cycles de petits déjeuners à destination des entreprises sur des sujets qui les touchent en termes de développement durable pour favoriser l'échange en fait entre les entreprises sur leurs problématiques, sur les solutions qu'elles trouvent, sur leurs pratiques.
Pardon, mais comment ça se fait ? Oui. Ça a été repéré par des gens, par vous d'abord, peut-être par l'association. On va chercher des entreprises pour qu'elles deviennent adhérentes, on les convainc ?
Oui, on va aller chercher ou quelquefois elles viennent parce que quelqu'un d'autre parle bouche à oreille. Mmh. Il n'y a pas très longtemps, une entreprise qui fait des palmiers sur le Val-de-Drôme est venue nous voir en frappant la porte en disant ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, le développement durable, et j'ai envie de me regrouper avec d'autres, et est-ce que je peux venir ?
Donc c'est des gens qui sont désireux finalement d'avoir ce qui était cité là, des temps d'échange et de partage d'expérience quoi.
En fait on a un peu deux grands publics, que ça soit chez les habitants, chez les entreprises, chez les associations. C'est celles qui sont déjà finalement convaincues et qui vont venir adhérer et entrer dans l'association Biovallée aussi par soutien à ce projet parce qu'elles le portent déjà elles-mêmes dans leur pratique. Et puis il y a tous ceux qui justement prennent conscience d'un certain nombre de choses et souhaitent progresser dans leur pratique, mieux comprendre aussi ce qui se passe. Et du coup, elles peuvent rejoindre l'association pour avoir cette information de base, pour pouvoir regarder comment les autres font pour elles-mêmes évoluer. Donc on a vraiment ces deux pieds-là dans l'association, ceux qui sont déjà convaincus et qui vont venir apporter leur soutien, leurs expériences, leur savoir, etc. Et puis ceux qui sont désireux justement d'entrer aussi dans cette transition et d'avoir de l'apport des autres et connaître aussi ce qui se passe sur le territoire pour peut-être justement entrer plus facilement en lien avec eux.
Et ces petits déjeuners dont parlait Karine il y a quelques secondes, eh bien, nous avons choisi de les présenter de la manière suivante, c'est que le développement durable, ça n'a pas qu'un coût, ça permet aussi de gagner de l'argent. En bas de bilan, on voit après coup qu'on fait des économies d'énergie, on fait des économies sur un tas d'endroits, et que tout ça, eh bien, ça permet en fait à la fin d'avoir un bénéfice qui est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Donc le développement durable, c'est pas une régression, c'est pas serrer la ceinture, mais ça peut permettre une certaine prospérité.
Oui, et ce n'est pas de l'écologie dans le développement de marché, non. C'est plutôt par l'économie qu'on fait et par des pratiques nouvelles qu'on ne perd pas d'argent.
Voilà, on va vers la sobriété heureuse, en fait.
Ouais.
Parce qu'on découvre qu'en étant plus sobre, en fait, eh bien, on vit mieux, dans tous les sens du terme.
Voilà. Et puis c'est aussi comment on valorise mieux ses déchets ou comment on en fait moins, parce qu'évidemment, ça a un coût de traitement derrière les déchets. Donc, il y a tout, notre enjeu, c'est de partir justement de la force de ce territoire qui est d'être quand même très proche des questions environnementales, des questions du bien vivre ensemble, des relations humaines, mais de voir qu'on est capable de justement avoir des modèles économiques qui tiennent et qui permettent aux gens de vivre et de rester vivre sur ce territoire et même de développer potentiellement aussi des technologies qui vont servir à d'autres territoires plus tard.
Et d'ailleurs, Biovallée fait office d'école au national, à l'international même d'ailleurs.
Oui, on dit de plus en plus que c'est un territoire école et je pense pouvoir dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons une demande qui nous arrive. Actuellement, là, depuis quelques jours, nous travaillons sur une demande qui nous est faite d'une université australienne où des professeurs de cette université réfléchissent au développement durable, cherchent des lieux d'application et disent « mais Biovallée nous intéresse » et donc ils seront là normalement le 19 et 20 mars, par exemple. Il y a 15 jours, nous avions toute une communauté de communes, donc le président de la communauté de communes avec des commerçants, des industriels et d'autres élus sont venus à notre rencontre pour voir comment fonctionne cette association, comment ça fonctionne sur le terrain aussi, comment les gens peuvent fonctionner en réseau et régulièrement nous faisons école quelque part. Il y a une revue internationale qui est parue il y a à peine un mois, qui est une émanation d'une agence de l'ONU qui a travaillé sur 8 territoires dans le monde qui font école, et Biovallée est l'un de ces 8 territoires. Et tout ça, c'est grâce, pas simplement à l'association, mais grâce aussi aux pionniers, à ceux qui, à 30 ans, ont commencé à travailler.
Oui, on peut le rappeler, puisque ça vient finalement d'une vague. Quand Karine, tu parlais de ce territoire qui avait quand même déjà, impulsé ou en tout cas une sensibilité particulière, c'est bien parce que depuis les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici passer un peu tout en bio. Pour aller un petit peu plus loin, à la fois dans l'organisation justement de l'association et des nouveaux adhérents potentiels, ça engage une fois qu'on est adhérent ou qu'on veut participer au projet Biovallée, on a une charte, on a des objectifs à remplir.
Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nous sommes inclusifs. Donc nous accueillons ceux qui veulent avancer et nous travaillons dans la gradualité. Chacun vient là où il en est, arrive là où il en est. Et l'idée, c'est ensemble, tous ensemble, de progresser. Et effectivement, il y a une charte, effectivement, il y a une grille qu'on appelle la grille développement durable qui permet à chacun, à chaque nouvel adhérent, de s'auto-évaluer. Sur les 4 piliers du développement durable que sont l'environnement, le social, l'économie et la gouvernance. Et ça permet à chacun d'analyser sa manière de vivre, ça permet à chacun de regarder où il en est et de se donner des objectifs pour progresser.
Tout seul, quoi, finalement. Chacun.
Alors, on relance un peu cette dynamique avec un outil plutôt simple, enfin voilà, qui est une première étape et qui va être mis en ligne voilà dans les prochaines semaines sur le site internet pour les adhérents. L'enjeu c'est de faire ce premier pas, mais après le travail de l'association c'est d'animer justement des temps d'échange. Mais on voit qu'il y a déjà un certain nombre de groupes qui existent à des endroits sur des problématiques. Voilà, je peux citer à Ouss-sur-Cie, il y a des groupes zéro déchet qui se mettent en place d'habitants. Et donc du coup c'est peut-être, enfin voilà, notre rôle à l'association c'est de faire en sorte que chacun puisse continuer à progresser dans ses pratiques et dans sa façon d'être, de vivre, de travailler, de faire du développement sur ce territoire. Et l'enjeu, c'est de pouvoir animer ça, mais à partir aussi de ce qui existe. Et c'est vraiment le rôle de l'association de bien connaître ça et puis de stimuler en fait où ça peut l'être. Et puis sur des temps dédiés qu'on peut organiser, mais aussi sur des temps existants.
On revient sur les objectifs, on en a cité qu'un.
Quel est le plus important, parce que c'est vraiment réunir et faire se rencontrer et travailler les gens ensemble. Après, il y a un objectif qui se pose aussi sur le territoire, c'est que l'association avec les trois intercommunalités, Val-de-Drôme, 3CPS et communauté de communes du Diwa, ont décidé de candidater à un gros appel à projet dans le cadre du grand investissement de l'État sur un appel à projet qui s'appelle Territoire d'innovation. Donc c'est un projet qui nous prend depuis cet été, parce que c'est un projet à plusieurs millions d'euros. Et donc on a vraiment essayé de redéfinir les enjeux pour notre territoire, qui sont, on a identifié quatre enjeux, c'est de préserver et anticiper les changements de l'environnement naturel, de valoriser économiquement les ressources locales, qu'elles soient naturelles, entrepreneuriales ou citoyennes. C'est d'impliquer, de faire évoluer les pratiques de toutes les parties prenantes du territoire et d'inventer, expérimenter, diffuser des activités, services et filières innovantes adaptées au milieu rural. Alors là, on construit tout ça sur la base effectivement de l'existant et comme tu le rappelais, ça s'inscrit dans une histoire, c'est-à-dire que oui, dans les années 70, il y a eu vraiment l'arrivée aussi de nouvelles, d'une inscription dans le bio et dans un certain art de vivre aussi, et beaucoup de choses coopératives et de dynamiques collectives qui se mettent en place, qui s'inscrivent aussi dans une histoire plus ancienne de résistance depuis plusieurs siècles. Donc on a un territoire qui est favorable pour ça. Et puis il y a eu tout ce travail sur l'eau, et puis petit à petit des entreprises, et des entreprises plus industrielles aussi du territoire, qui font le pas de changer justement leur façon de voir les choses, ou en tout cas de passer un cap supplémentaire dans tout ça. Donc là, ce projet, il accompagne encore ça. Et l'idée, c'est de redonner une dimension et une dynamique bien plus forte avec l'apport aussi de financement sur le territoire.
Financement qui donc vont permettre, par exemple, le développement d'un de ces quatre thèmes. Je vais prendre un exemple sur innover avec des nouvelles structures, des nouvelles technologies propres au territoire, propres à la ruralité, qui pourraient donc servir à d'autres territoires ruraux. Il va donc y avoir un financement précis de la recherche.
Alors, du coup, ces quatre enjeux, ils se traduisent pas directement en axes. On a plutôt travaillé sur des axes qui rejoignent des objectifs à se fixer sur le territoire. On en a un autour de l'agroécologie et justement de la bioéconomie, avec par exemple un projet d'unité collective de compostage qui met en lien. Aujourd'hui, il y a déjà 80 agriculteurs qui sont regroupés au sein de l'association Compostez-moi qui porte le territoire, avec des entreprises comme la CAF coopérative de Vercheny, un certain nombre d'acteurs qui se mutualisent ensemble pour voir comment ils valorisent les déchets verts et les effluents des élevages. Donc ça, c'est vraiment un projet collectif d'investissement et qui permet à la fois de valoriser les déchets aujourd'hui du secteur agricole, mais aussi de pouvoir le transformer pour que ça soit revendu sur le territoire à des prix du marché qui ne sont pas en plus dépendants de la spéculation sur les fertilisants agricoles et qui permettent de le valoriser même en granulés pour des utilisations, notamment dans les vignes, etc., où c'est plus simple de l'utiliser comme ça. Donc ça, c'est un des projets. Après, on a des projets autour de la filière PPM, des plantes à parfum aromatiques médicinales, qui est une filière notre territoire, il est vraiment à la pointe de cette filière. Donc on a plusieurs projets autour de ça, qui peuvent être du renforcement d'entreprises existantes qui sont en plein développement, comme l'herbier du Diwa, et qui développent aussi un certain nombre de services avec sa partie plus industrielle, de conditionnement, etc., pour les petits producteurs ou les artisans qui travaillent autour de ces produits-là, donc avec cette dimension aussi collective et ancrée sur le territoire. Et puis, au bout, par exemple, de la filière PPM, un projet... qui s'appelle Débactère et qui est porté par le laboratoire Iris et puis une entreprise qui s'appelle API qui fait de la machinerie, la fabrication de machines, et ils ont développé un prototype pour pouvoir assainir l'air des hôpitaux ou en tout cas les environnements contaminés.
Ou de ce studio.
Voilà, ça pourrait être de ce studio, à base de filtres et d'huile essentielle et avec des facilités et des coûts potentiels pour les hôpitaux assez faibles, et donc là avec un marché derrière très important. Et d'ailleurs, il est aussi en lien avec des chaînes de cliniques en Suisse ou en Autriche qui sont intéressées par le procédé. Donc ça, c'est un axe, voilà, agroécologie et bioéconomie. Et puis avec des choses annexes, hein, on travaille aussi avec le syndicat de la Clairette, Jaillance et d'autres sur comment éviter les intrants chimiques dans les vignes, et donc du coup, voilà, sur les questions d'épamprage manuel et comment on peut inciter aussi un peu financièrement le passage, les changements de pratiques dans ce secteur-là.
Ah oui, donc il y aurait quand même une partie un peu coercitive, parce que là, pousser, amener certains agriculteurs à changer leurs pratiques, parce que l'épamprage manuel, c'est d'abord et avant tout devoir embaucher des gens, et donc...
Exactement, donc c'est un surcoût aussi.
C'est un surcoût, et puis une dimension sociale que beaucoup ne veulent pas, voilà. Ou ne peuvent pas.
Alors après, l'idée, justement, c'est d'aller progressivement. Aujourd'hui, je crois qu'il parlait sur les 700 hectares qu'ils ont, d'essayer de, voilà, d'inciter sur 300 hectares supplémentaires. Et donc, du coup, c'est aussi d'avoir une prime qui permette de cofinancer ça un certain temps, le temps aussi que ça rentre dans les usages et puis que le modèle économique aussi s'équilibre sur du plus long terme.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est accompagné par le syndicat de la viticulture aussi, enfin de la Clairette plutôt. Ouais, pardon. Ouais. Et donc, c'est une démarche collective.
Oui, c'est pour toucher bien tous les exploitants de l'AOC, et non pas uniquement parce qu'on citait Jaillance, mais Jaillance, c'est une partie
bien
des
sûr,
exploitants.
Bien sûr, oui, exactement. Donc, et nous, c'était notre enjeu aussi, c'était de se dire, ce serait bien que ce soit un portage par le syndicat plutôt que par une seule entreprise pour donner cette dimension, et c'est aussi ce que l'association essaye d'apporter, quoi, d'élargir à chaque fois les projets. Donc ça, c'est un gros champ sur l'agroécologie. On a un gros champ également, c'est sur l'énergie, avec les objectifs que se sont fixés le territoire de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme à l'horizon de 2040. Et ça passe par deux grands aspects. Un, c'est la réduction des besoins en énergie par deux sur le territoire. Et donc là, l'idée, c'est notamment de renforcer et de diversifier les services proposés par la plateforme territoriale de rénovation énergétique, et puis de l'étendre à l'ensemble de la Biovallée, donc sur le Diwa y compris, pour favoriser la rénovation des bâtiments. On sait que ce sont des gros consommateurs d'énergie. Et puis, y a, en termes de consommation d'énergie, il y a aussi tout ce qui est mobilité, et ça, c'est un troisième axe dont je parlerai tout à l'heure. Et puis le deuxième enjeu, donc, c'est produire de l'énergie verte sur le territoire. Et donc là, ce serait de... renforcer la coopérative de production d'énergie d'IWAT, hein, qui fait à la fois de la production en direct, qui peut gérer des sites, mais qui peut faire du financement. Et donc, du coup, là, d'avoir un apport assez important sur ce fonds d'investissement en ENR et qui s'intègre dans le paysage actuel, c'est-à-dire qui travaille aussi en lien avec la SEM et la SES, qui existent aussi en investissement sur les ENR pour le Val-de-Drôme, et avec d'autres acteurs spécialistes du secteur comme Énergie Partagée, NERCOP, etc.
Quand on voit par exemple la communauté de communes du Diwa qui a fait tout son nouvel édito de sa feuille d'information autour du développement de l'énergie verte, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est des programmes qui se font front peut-être?
Après, c'est sûr que ces thématiques, elles ont été construites aussi avec les trois intercommunalités, donc des sujets qui étaient en travail, on les a mis en avant dans ce projet de territoire.
Je crois même que la CCD, la communauté de communes du Diwa, a investi dans Diwat. Hein.
Oui, tout à fait.
Tout ça, ça va de concert. Hein.
Ouais. Bon. Et donc, ils sont de toute façon partie prenante de l'entité Biovallée, encore ces trois communautés de communes.
Absolument, oui.
Voilà, les trois intercommunalités sont adhérentes. Il y a aussi un certain nombre de communes qui sont adhérentes en direct dans le collège collectivité locale. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler à deux niveaux différents, Après, au niveau sur l'appel à projet territoire d'innovation, il y a un comité de pilotage qui se réunit tous les 15 jours en présence des présidents et des directeurs de services des trois intercommunalités et de l'association Biovallée. Donc c'est vraiment un travail main dans la main que font les trois intercommunalités et l'association à ce niveau-là.
Voilà. Ce serait dommage d'ailleurs que l'association avance toute seule et que les intercos ne suivent pas non plus par des projets locaux refinancés autrement. Hein.
Tout à fait, mais du coup là, l'idée c'est de mettre en convergence tout ça. À la fois, évidemment, ils ont aidé à identifier des projets parce qu'ils connaissent leur territoire, ils sont en lien avec les entreprises, les associations et du coup à les faire émerger, mais aussi être force de proposition. Par exemple, il y a l'idée de pouvoir renforcer le réseau des recycleries matériothèques. Et donc, du coup, de pouvoir mettre en place aussi du lien entre celles qui existent sur le territoire, de renforcer à des endroits où ça manque, et notamment du côté de Livron-Loriol, et puis de pouvoir permettre aussi la gestion de flux à l'échelle du territoire et pas seulement de chacune des entités.
On poursuit
peut-être sur l'énergie. Je vais citer rapidement parce qu'il peut intéresser les auditeurs du DIWA à Coprev, qui est sur la vallée de Quin. Et donc, ça fait partie aussi des projets qui sont identifiés dans cette candidature, avec l'idée de mettre en place une centrale villageoise, de favoriser l'autoconsommation et de l'adosser à un système de stockage hydrogène en expérimentation, parce que c'est des technologies qui sont seulement en train vraiment de se déployer, pour pouvoir utiliser le stock d'électricité à des moments où ils n'en produisent pas assez pour leur consommation, mais aussi avoir un système où quand c'est le réseau national qui a besoin d'électricité parce qu'il y a des pics de consommation, eux d'utiliser leurs réserves et de revendre leur électricité au réseau au moment où il y en a besoin. Donc c'est un système vraiment intégré à la fois d'autoconsommation et de modèle économique pour à l'échelle des 6 communes de la vallée de Quin.
Oui, cette partie innovation, là, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu dessus parce qu'on est sur des choses, on ne sait pas où on va. C'est des nouvelles technologies. Certaines, pour parler de ce projet hydrogène, sont en train d'être, prises, accaparées par des grosses entreprises qu'on ne va pas citer le nom pour surtout pas leur faire de pub. Mais quand même, cette partie nouvelles technologies, recherche, comment on avance dans quelque chose comme ça, tellement flou.
Alors c'est pas simple parce qu'effectivement ça a des coûts aujourd'hui qui sont importants, qu'on est sur des échelles qui sont pas des échelles énormes, et justement là ce type de financement qui arrive et qui permet aussi de lever des financements d'innovation qui vont venir finalement financer le surcoût parce que ça reste exceptionnel, mais l'enjeu derrière ce projet c'est vraiment de réussir à modéliser un système intégré et voir comment un territoire peut gérer son électricité et en tirer aussi un profit économique parce qu'il y a des retombées économiques directes pour le territoire à l'échelle de la Biovallée. C'est 1,5 million d'euros qui sont dépensés en énergie. Donc si on produit l'énergie sur le territoire, ce 1,5 million qui revient sur le territoire en termes de richesse. Et puis en plus, il y a des systèmes, c'est-à-dire que sur les installations d'éoliennes ou de très grands parcs photovoltaïques, les collectivités locales touchent une taxe qui s'appelle l'IFER et qui sont sur des montants qui sont assez significatifs si on cumule l'ensemble de ce qu'on pourrait faire sur le territoire.
Une taxe qui va rester aux collectivités territoriales.
Exactement. En tout cas, qui est fléchée, qui est distribuée sur les collectivités locales, et ça vient d'être réaffirmé là dans les derniers décrets par rapport à ça. Donc là-dessus, on est plutôt rassuré.
Oui, parce que encore une fois, cette production d'énergie, liée à, et c'était dit en introduction, à la baisse aussi de notre consommation, c'est tout un changement de pratique qu'il faut impulser dans le fond, jusqu'à éteindre les lampadaires dans les villes. Enfin, certaines le font déjà. Il y a une consommation électrique qui est aussi un peu, perdue.
Oui, donc c'est pour ça qu'un des deux objectifs, c'est de réduire par deux la consommation énergétique. Et effectivement, ça passe par les gestes de tout le monde. Et c'est aussi l'objectif, par exemple, de la petite grille d'auto-évaluation pour les habitants. C'est déjà prendre conscience de où ils en sont et sur quoi ils peuvent progresser. Et petit à petit, nous, c'est d'enrichir une espèce de banque d'expérience, de données qui vont dire, moi, en consommation électrique, je ne suis pas très bon. Comment les autres font? Où est-ce que je peux m'adresser? Aujourd'hui, j'achète mon électricité à tel endroit. Peut-être que je vais plutôt l'investir effectivement dans la coopérative d'énergie locale ou chez des distributeurs, en tout cas d'électricité verte. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là, de pouvoir à la fois changer les pratiques donc pour réduire les consommations, réduire les déchets, etc. Mais aussi ben, favoriser que quand on est quand même dans, voilà, on consomme, on a besoin de consommer un minimum, de pouvoir orienter cette consommation au maximum vers des choses locales et qui sont inscrites dans ce désir de développement durable et soutenable.
On pourrait être, abonné, consommé uniquement à la coopérative locale. C'est un des objectifs qu'elle devienne, comme n'importe quel autre prestataire vendeur d'électricité.
Alors moi, je suis pas la spécialiste de ce montage-là. Après, par exemple, là, sur la centrale villageoise d'Acoprève, l'objectif c'est que les habitants puissent acheter directement à la centrale villageoise. Et la centrale villageoise, elle pourrait être justement cofinancée en partie par la coopérative d'énergie renouvelable et en partie directement peut-être par territoire d'innovation. Donc c'est.
Et voilà, viendrait abonner Acoprève.
En tout cas, ça c'est le système d'autoconsommation et l'objectif c'est de mettre en place. C'est un système de gestion effectivement local aussi et avec le développement d'une application numérique qui permet la gestion des stocks, des flux et des consommations et une optimisation de ça. Et ça, il le travaille avec un bureau d'études qui s'appelle Novener et qui les suit depuis longtemps sur ces questions.
Quatrième axe.
Il y avait troisième axe que j'ai légèrement abordé, c'est la mobilité. Donc l'enjeu, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de discussions avec le conseil régional pour finalement renforcer la ligne de train. Donc ça fait partie un peu des enjeux, mais qui ne rentrent pas là directement dans la candidature qu'on pose, mais qui va la structurer quand même. Puisque pour nous, l'enjeu, ça va être de déployer autour de cette ligne de chemin de fer et en complémentarité sur d'autres zones du territoire, des plateformes de mobilité qui soient multimodales, donc avec plusieurs moyens de locomotion rattachés et plusieurs services. Et de pouvoir faire comme ça des lieux où on puisse venir s'arrêter en train et prendre un vélo électrique ou un scooter électrique et puis le ramener le soir pour reprendre le train. Ça peut être évidemment tous les systèmes de covoiturage, de favoriser le stop, le relais avec les bus, etc. Donc c'est vraiment de mieux organiser finalement les circulations sur le territoire et puis d'associer à ces pôles une offre de services qui peuvent être des espaces de coworking, des salles de réunion par exemple, qui peuvent être pratiques à certains nœuds du territoire, qui peuvent être des maisons de services publics, des points d'infotourisme, voilà toute une série de services parce qu'on passera dans ces points-là, on aura peut-être de l'attente et qu'il faut optimiser la gestion de ces espaces. Autour des transports, on a aussi des expérimentations par les nouvelles technologies. Il y a un autocariste, Bertolami, qui souhaiterait pouvoir expérimenter des navettes autonomes, donc c'est-à-dire sans chauffeur, et voir en territoire rural comment il pourrait desservir justement des zones à la demande. Et ça permet de le faire et donc du coup d'avoir son expérimentation sur ce territoire aussi.
Ah, il y a des gens qui viennent s'amuser aussi, quoi.
Ben oui, et en même temps, c'est un enjeu pour nos territoires, c'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui conduit un véhicule et qui, pour desservir tous les endroits, ça coûte très cher, alors que d'avoir des petites navettes qui peuvent à un moment donné circuler de façon autonome, ça permet aussi de relier tous les points à la demande et pas de... Voilà. Donc c'est un enjeu aussi de service...
Et puis ça fait écho avec une certaine actualité quand même, cette histoire du déplacement dans les zones rurales un peu forcé avec son véhicule personnel. En même temps, j'entends pas forcément une réflexion autour d'un service public du transport qui ferait que quand même on éviterait de prendre systématiquement son véhicule. Il va quand même y avoir des points à rejoindre. C'est pas non plus hyper coercitif. Tout le monde pourra continuer à faire bien comme il veut aussi.
Déjà, la grande avancée que ça propose de travailler comme ça, c'est de réunir tous les acteurs autour de la table, autour justement de ces plateformes. Donc à la fois la SNCF et puis du coup le conseil régional, puisque c'est eux qui gèrent les lignes, à la fois le conseil départemental, le transport scolaire, les lignes de bus, et puis toutes les associations locales qui travaillent sur la mobilité, donc aussi le vélo, les associations pédestres, etc. Et donc du coup de réfléchir collectivement à comment on organise. Et il y a déjà là dans les discussions et avec le travail aussi des intercommunalités, de Dromolib, du collectif Garanou, du collectif de l'Étoile de Veynes. Donc il y a plein de discussions qui sont en cours et petit à petit l'enjeu c'est d'améliorer les connexions et Et par exemple, la connexion de notre territoire à la gare Valence TGV, qui est quand même un enjeu. Donc ça, c'est en train d'avancer. Le fait que la ligne 28, elle puisse être renforcée, c'est en train d'avancer aussi. Donc voilà, déjà, il y a ce travail de coordination et de meilleure articulation entre l'offre qui est aujourd'hui dispersée entre différents acteurs. Et l'enjeu, c'est d'améliorer ça.
On en est quand même aujourd'hui, grâce à ce projet, à pouvoir provoquer une réunion des différents services de la région qui travaillent sur le transport.
Ce qui n'était pas le cas, quoi.
Voilà. et puis, de provoquer aussi des contacts avec SNCF Mobilité, avec SNCF Rail, enfin le RFF, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas que SNCF qui est concerné. Il y a différentes sociétés qui sont concernées. Et là, au travers de ce projet, on est en train de provoquer des rencontres, y compris même avec La Poste, qui pourrait réfléchir à faire de la petite messagerie et réutiliser les anciennes gares comme point relais, enfin les gares, pardon, comme point relais, etc. Donc, il y a des choses qui bougent.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est des acteurs qu'on voit, qu'on pensait en tout cas pas ensemble. Et puis, quand on voit, par exemple, l'arrêt d'une ligne essentielle qui avait été le Roman Gap, tout d'un coup, il faut qu'il y ait justement les collectifs qui bougent un petit peu. Mais on a l'impression que c'est jamais pensé localement, quoi.
Hein. Ouais, donc, du coup, ça met sa dynamique. Et puis, à terme, à moyen terme, peut-être qu'un jour, on aura une autorité organisatrice des transports à l'échelle du territoire. Mais il faut évidemment que ce soit connecté aussi avec les agglomérations. Donc, il y a un enjeu d'inscription dans le territoire, de circulation au sein même du territoire, mais aussi avec l'extérieur. Et je pense que ça avance bien, voilà, d'avoir ces projets un peu de coordonner un peu les acteurs, de mieux les articuler.
Oui, puis ça fait avancer la réflexion aussi, parce qu'il y avait un rêve pendant des mois d'avoir un train à hydrogène. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre que c'est pas la meilleure solution, qu'il y a une autre solution, qui est un train qui existe déjà, duquel on enlève le moteur et on remplace par des piles, et ce train pourra aller jusqu'à Gap, ce qui est impossible pour un train à hydrogène, par exemple. Donc,
ils n'arrivent pas à monter les côtes encore.
Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais. Et sinon, il faut faire.
Parce qu'on parle de notre ligne qui n'est pas électrifiée. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, c'est du gasoil.
Ouais. C'est du bon gros diesel.
Ouais. Ouais. Un bon diesel. Ouais. Donc voilà, ce sont des réponses à moyen terme, mais ça y est, il y a quelque chose qui est lancé grâce à cette réflexion sur le territoire d'innovation.
Quatrième axe, donc.
Et le quatrième axe, c'est de constituer vraiment un pôle d'innovation rurale et de formation. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que notre territoire, il est quand même connu de l'extérieur pour un certain nombre d'initiatives, de coopérations, de savoir-faire. Et du coup, c'est vraiment de renforcer, cette dimension-là, à la fois en pouvant centraliser et valoriser les ressources existantes, et donc du coup d'avoir vraiment un centre de ressources.
Ça va passer par quoi ? Par une grosse bibliothèque ? Enfin, je sais pas.
Alors, il y a des projets sur le territoire, on ne sait pas si ça va pouvoir aboutir, mais il y a un gros projet de bibliothèque de l'écologie et de la transition, avec potentiellement 60 000 références qui pourraient être numérisées et mises à disposition des chercheurs et du public.
On dit projet, excuse-moi de te couper, on dit projet, mais en réalité, elle existe.
Oui.
Il y a 60 000 références qui sont empilées sur des palettes à certains endroits, et qui n'attendent que d'être assemblées, d'être mises à disposition du public et peut-être même de chercheurs. Donc voilà, il y a...
Ouais, faut pas que ça brûle alors.
Voilà, c'est ça. Donc on a dans Territoire d'innovation, on met cette question de la numérisation qui a un coût assez élevé, hein, c'est à peu près 600 000 euros pour numériser les 60 000 références. Donc du coup, ça pourrait faire partie des subventions via cet appel à projet. Et puis il y a toute la dimension recherche. Donc là, à travers, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, mais qui vont être menées aussi sur le territoire, notamment sur les flux de mobilité des personnes, des aliments, sur l'eau, sur comment, en gros, comment on peut travailler l'économie circulaire de l'eau et éviter que l'eau elle soit systématiquement passée par les stations d'épuration complètement pour être après utilisée en irrigation ou en autre chose, mais plutôt avoir des circuits courts et qui permettent de limiter les traitements et puis de garder un maximum d'eau
et de nutriments.
Donc tout un pôle recherche et puis un pôle justement ingénierie pour essayer de développer, ben voilà, on parlait des bactères tout à l'heure, mais c'est aussi du coup en impliquant le 8 Fab Lab qui a un projet de Fab Unique, voilà, pour pouvoir faire des petites séries d'objets connectés, voilà, que ça soit des lieux d'expérimentation. Il y a aussi un projet de coopérative d'applications numériques avec l'enjeu de pouvoir développer des services numériques adaptés au milieu rural et par exemple un des premiers champs sur lesquels ils veulent travailler, c'est la mobilité, favoriser les systèmes d'autostop avec des alertes en fait par une application numérique, voilà, qui permet de se signaler et puis de savoir qui attend quelqu'un à quel endroit.
Cette industrialisation, hein, je mets bien des guillemets, hein, de Biovallée, est-ce que c'est quelque chose qui est sur la table, qui est une réflexion, voilà, son développement, j'allais dire productif de machines spécialisées, pourquoi pas, ou de futures techniques d'innovation.
Déjà, l'industrialisation, elle arrive par le fait qu'on a certains de nos acteurs qui se développent et qui, justement, on voit bien que sur leur marché, il y a des choses à créer et des positionnements à trouver. Voilà, c'est le cas de l'Herbier du Diwa, de GPA, d'un certain nombre, voilà, d'entreprises, et d'entreprises plus petites aussi, hein, beaucoup plus artisanales, mais qui trouvent, et du coup, qui ont une créativité et une inventivité, et puis une souplesse d'entreprise aussi, et de formes d'organisation qui leur permettent d'expérimenter et d'investir, ce que feraient peut-être pas des gros groupes qui sont très dans des process prédéfinis.
Hier, on avait le témoignage d'une entreprise qui dit voilà, moi je suis pas dans la Drôme, Biovallée c'est un concept qui m'intéresse, j'ai envie de venir m'installer dans Biovallée, plutôt près de L'Oriole, hein, plutôt L'Oriole, mais bon, dans Biovallée, particulièrement sur une zone qui est éco-conçue. Donc je sais qu'elle me coûtera plus cher, mais j'aime beaucoup le principe. Et puis nous, on est en train de se transformer. On fait des fontaines à eau. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur l'éco-conception de ces fontaines. On va utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus vertueux. Et puis au passage, on avait une fabrication qui était en Chine. On va la rapatrier. Et donc on va créer des emplois sur le territoire. Voilà, quoi, il y a une dynamique comme ça qui est en place, et territoire d'innovation permet aussi d'interpeller un certain nombre de chefs d'entreprise sur leur manière de travailler et de saisir une occasion de changer.
Voilà, de changer, donc de venir s'installer ici, ça me permet une question. Pour être à Biovallée, il faut être dans Biovallée. J'allais dire ceux qui sont un peu sur le bord à Chabeuil, mais qui vraiment voudraient, par exemple, ou en Isère, en disant, mais quand même, nous aussi, on y croit, on veut adhérer. C'est possible.
Aujourd'hui, c'est une association de territoire, donc c'est effectivement, il faut être basé sur une des trois intercommunalités, qui est le territoire de Biovallée. Mais comme on est amené là à s'ouvrir aussi, voilà, à travers, par exemple, cette candidature à l'agglo de Valence, etc., on aura peut-être à terme un cinquième collège des sympathisants voisins ou même internationaux.
Oui, voilà, de sympathiques voisins. Mais j'en profite pour dire au passage que Biovallée, c'est aussi un label territorial.
Oui, oui.
Donc, qui a ses exigences, qui demande des engagements et... Quelque part, on peut les vivre qu'en étant sur place.
Ouais, c'est ça. C'est comme une AOC, quoi. Hein.
Voilà, mais au-delà de ça, évidemment, tout ce qu'on organise, que ce soit quand on fait des conférences, les petits déjeuners, des choses comme ça, c'est évidemment ouvert aux autres et pas que aux gens du territoire.
Voilà, il pourrait y avoir la biodrome des collines après.
Le biovercor. On peut faire tache d'huile, c'est pas un souci. Voilà. Ouais.
N'hésitons pas. On a terminé avec ce quatrième axe. Donc ce projet territoire d'innovation, vous l'avez déposé il n'y a pas très très longtemps.
Alors,
je
on
ne
l'a
crois.
Pas déposé, en fait on le dépose le 26 avril. Donc, par contre, on en a fait une présentation la semaine dernière auprès de la Caisse des dépôts nationales qui gère cet appel à projet. Voilà, et on a été plutôt très encouragés sur notre candidature. Et du coup, voilà, on a encore deux petits mois pour finaliser complètement ça avec chacune... avec les intercommunalités, bien sûr, et puis les entreprises et les associations qui peuvent être impliquées dans les axes, et sachant que tout ça donnera lieu, de toute façon, qu'on soit retenu ou pas, à des dynamiques, parce que ça fait émerger des champs de travail intéressants pour le territoire, de toute manière.
Cependant, si vous n'étiez pas retenu, la manne financière potentielle ne sera pas là. Qu'est-ce que vous...
On a déjà repéré d'autres appels à projets, notamment un gros appel à manifestation d'intérêt du conseil régional qui peut rejoindre certains de ces axes-là sur les questions d'énergie, de mobilité. Enfin, on retrouve les mêmes thèmes. Et puis après, on aura peut-être plus forcément l'intégralité du projet qui serait financé comme ça, mais on a repéré différents financements aussi par des fondations, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de quand même accompagner ces projets-là. Évidemment, le rythme ne sera pas complètement le même si on peut avoir plusieurs millions pour mettre en œuvre ces projets-là sur les 7-8 ans à venir, ou s'il faut y aller projet par projet et enjeu par enjeu, quoi.
Pour terminer peut-être cet entretien autour de Biovallée, c'est le moment, comme chaque année, comme chaque association, d'adhérer, de s'inscrire dans la démarche.
Tout à fait, on est en début d'année, donc c'est les moments des adhésions, mais c'est vrai que cette année, avec cette candidature, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ce qui est très fort dans notre candidature, c'est aussi cette gouvernance qui est partagée entre les collectivités locales, les entreprises, les associations et les habitants, et c'est quelque chose qui est très remarqué au niveau national, et c'est vrai que dans notre dossier de candidature, si on peut montrer qu'on a des adhésions qui arrivent dans l'association, parce que les habitants, les entreprises, les associations et les communes au-delà des collectivités du territoire soutiennent ce projet et effectivement voient l'intérêt pour leur territoire de pouvoir bénéficier de cet apport et du coup de ce développement de ces développements dont on a parlé, et c'est le moment d'adhérer, sachant que du coup on fait l'association est reconnue d'intérêt général, donc ce qui permet aussi de défiscaliser les adhésions et les dons qui sont faits à l'association et qui peut permettre d'inciter aussi les entreprises à s'y mettre, même si elles viennent de plus en plus et de plus en plus rapidement au sein de l'association. Je vais laisser Augustin.
Il faut savoir que pour un citoyen, l'adhésion commence à partir de 5 euros. Donc je pense que c'est à la portée de tout à chacun. Si quelqu'un veut devenir un bienfaiteur de l'association, par exemple avec un don de 200 euros, il défiscalise 66% de son don de l'impôt. Bon, effectivement, il faut payer l'impôt pour pouvoir défiscaliser. Mais à la fin, quand il a défiscalisé, en coût réel, c'est 68 euros. Donc d'un côté, avec 200 euros, c'est un apport qui peut faire avancer les choses. Si plusieurs dizaines de citoyens font cela, ça aide l'association à avancer sur des projets. Et en même temps, ça permet à chacun aussi de pouvoir récupérer une grande partie sur son impôt. Quelque part, c'est peut-être une bonne manière, une bonne gestion des fonds de l'État.
Ça permet de flécher plus directement.
Voilà. Oui.
Alors, 5 euros, il y a plusieurs tranches d'adhésion.
Pour les citoyens, il y a juste 1 euro. Après, les gens mettent comme ils veulent.
C'est 5 euros ou plus.
C'est à partir.
Mais les entreprises, par exemple.
Alors, les entreprises, elles, c'est selon leur chiffre d'affaires. Ça va de 50 euros pour une auto-entreprise qui démarre jusqu'à 300 euros. Mais on a des entreprises qui ont commencé à entendre le message. Il y en a une qui a fait un don de 4000 euros dernièrement, une autre 2000 euros, et ça commence à se savoir. Il faut savoir que pour une entreprise qui donne 2000 euros, elle défiscalise 1200 euros de l'impôt sur la société. En réalité, il lui reste plus que... C'est comme si elle avait fait un don de 800 euros.
Et les collectivités ?
Les collectivités, elles ne défiscalisent pas. Donc,
bien sûr, mais elles adhèrent.
Par contre, c'est entre 100 et 300 euros pour les communautés de communes. Enfin, les communautés de communes, c'est 1 euro par habitant. Et les communes, c'est de 100 à 300 euros.
À l'échelle d'une communauté de communes, ça fait un bon investissement quand même, finalement.
Oui, c'est une manière pour elles de marquer leur attachement à l'association. Et puis, je pense qu'elles s'y retrouvent très, très bien, vu qu'avec le projet que vient de décrire Karine, les trois intercos sont présentes dans le comité de pilotage et elles voient bien ce qui se passe actuellement. Elles voient bien le bouillonnement dans le monde de l'entreprise et associatif. Je pense qu'elles s'y retrouvent.
Après, c'est effectivement un vrai investissement, mais ça fait à l'échelle du territoire à peu près que autour de 50 000 euros, et ce qui fait quand même des tout petits moyens pour l'association Biovallée. Donc c'est pour ça qu'on a un enjeu aussi de se développer au-delà de l'apport direct des intercommunalités qui font aussi plein d'apports en nature à travers le travail qu'ils font sur le terrain.
Soyez fou, président d'Interco, passez à 2 euros par habitant.
Voilà.
Quelques éléments de com pour terminer. Vous êtes sur Internet, bien sûr.
Alors, on est sur Internet, oui. Donc c'est biovallée.net.
On a une page Facebook, Biovallée Association. On tweet un peu aussi.
Et sur le site Internet, vous pourrez trouver d'ailleurs le bulletin d'adhésion. Et puis, vous pouvez adhérer aussi sur Hello Asso, voilà, en tapant Biovallée. On va mettre ça en place. Si ce n'est déjà fait, ouais. Ça va être mis en place dans les deux jours qui viennent. Voilà.
Et puis après, on peut trouver aussi des flyers, des choses comme ça qui sont un peu disponibles quand même.
Oui.
Voilà, on avait fait une plaquette. On va refaire une petite plaquette qui représente l'association et puis les grands chantiers, mais très rapidement. Et du coup, qui sera disponible un peu partout. On va la mettre à disposition de chacune des communes et puis un peu tous les lieux clés, les espaces sociaux, les associations locales. Donc, ça va être largement diffusé.
À partir d'avril, voilà. À peu près. Et on a quand même aussi une invitation à faire. C'est le 22 mars.
Ah.
Vendredi 22 mars, nous avons les entretiens de Biovallée. Le thème cette fois-ci, c'est l'eau, rendre l'eau accessible à tous. Nous avons la chance d'avoir un prix Nobel de la paix qui intervient, qui s'appelle Bernard Barraquet, qui est membre du GIEC, hein, donc ce groupe d'experts sur le climat.
Assez peu écouté.
Peut-être, semble-t-il, hein par certaines grandes puissances, c'est ça. Donc nous avons la chance de l'avoir, parce que c'est Biovallée, il vient gratuitement. Jean Jouzel, l'an dernier, avait fait la même chose. Et donc c'est vendredi 22 mars, de 18h à 21h, et c'est sur l'écocite à Eure cette fois-ci. La dernière fois, nous étions sur Die, et cette fois-ci, ce sera sur l'écocite à Eure. Donc venez nombreux, et c'est en partenariat avec le syndicat mixte de la rivière Drôme. Donc il y aura sûrement des choses intéressantes à entendre et puis ça nous permettra aussi aux uns et aux autres d'avancer.
Et de se rencontrer, donc rendez-vous le 22 mars. Augustin, Karine, merci à vous deux.
Merci.
À la prochaine.
Merci à vous.
Interview. Ok, le bail.
L'interview du jour.